Radio G 101.5 FM. Bonjour à tous, vous êtes sur les ondes de Radio G au 101.5 FM à l'écoute de l'émission Radio Nippon, le programme qui vous fait voyager à travers la culture japonaise. Laissez-nous donc vous faire découvrir cette culture qui nous passionne au fil des récits et des rencontres, un mardi sur deux à 13h. Au sommaire aujourd'hui, une émission un peu spéciale car nous avons eu la chance de rencontrer et d'interviewer pour vous un expatrié français revenu du Japon récemment et qui sera là pour nous faire partager son expérience. Bien évidemment, nous n'oublierons pas de vous mentionner les actualités autour de la culture japonaise en Anjou et de ses environs. Et tout de suite, je passe la parole à Xavier qui va donc nous présenter les prochaines actualités.
Merci Fanny. Pour ces 15 prochains jours, assez peu d'actualités. Après une première quinzaine de février relativement chargée en actualités japonaise et événements autour de la culture japonaise, cette prochaine quinzaine sera relativement légère. Nous avons tout de même un atelier manga à citer. En effet, à la librairie Contact rue Le Nepveu à Angers, ce samedi 22 février de 14h à 18h se tiendra un atelier manga. Vous pourrez ainsi découvrir comment sont faits et dessinés les mangas. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à appeler le 06 19 12 65 32. Et c'est tout pour ces actualités. Mais surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas, si vous avez des corrections, des ajouts à apporter, n'hésitez pas à nous faire un petit mail à radionippon1@gmail.com. Sur ce, nous allons pouvoir retrouver David avec sa petite chronique sur Mangalu.
Salut à tous chers auditeurs, c'est David et c'est maintenant moi qui vais reprendre la suite de l'émission avec ma petite chronique manga. Petit rappel pour les auditeurs, cette chronique a pour but en fait de présenter l'événement Mangalu organisé par la librairie Azumanga à Angers. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter les dernières émissions, je vous invite à vous rendre sur le site de Radio G pour écouter les podcasts et ma super chronique sur ces mangas. Pour continuer, donc là je vais vous parler d'un manga qui s'appelle BL Métamorphose. Je vais maintenant vous faire le petit résumé de ce manga. Donc, à 75 ans, Yuki vit le quotidien bien réglé d'une grand-mère japonaise. Entre mots croisés et cours de calligraphie, en flânant un jour dans une librairie pour fuir la chaleur, elle craque pour un manga. Intriguée par sa couverture chatoyante, ce n'est qu'en rentrant chez elle que Yuki se rend compte qu'elle a fait l'acquisition d'une bande dessinée d'un genre bien particulier, un boys love, une romance entre garçons. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais contre toute attente, notre mamie tombe littéralement sous le charme de ce récit et n'a plus qu'une idée en tête. Lire la suite. C'est la jeune Urala, apprentie librairie et accro au genre, qui va devenir la conseillère de la vieille dame en la matière. Pour l'adolescente timide et complexée, qui vit sa passion dans le secret, la rencontre avec Yuki va être un véritable déclic. Par-delà les générations, les deux fangirls vont s'ouvrir l'une à l'autre et découvrir les joies d'une amitié hors du commun. Voilà un peu pour le résumé qui est assez bien détaillé d'ailleurs. Moi ce que j'en ai pensé, en commençant donc cette sélection shonen, hein, du coup on change bien de type hein, de manga, de catégorie, il y a vraiment histoire, tranche de vie, on sort de la science-fiction, etc. C'est vraiment un thème sérieux quoi, on va dire, enfin sérieux, moins fantastique. Moi j'ai bien aimé l'histoire, je trouve ça drôle comme... Enfin le scénario je me dis mais voilà, j'aurais jamais pensé à une histoire comme celle-là. Donc je trouve ça bien. Le point fort, voilà, un sujet... Moi, je suis pas fan des shoujo, enfin des boys love, j'en lis pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un univers que je découvre à travers ce manga. Après, sur la partie relation entre les deux personnages, on voit qu'une amitié se dessine entre la jeune fille qui est très très timide et puis bah, la grand-mère qui est un petit peu isolée, qui est seule, quoi, qui vieillit. Donc toutes les deux, elles se retrouvent là-dedans. Oui, c'est une histoire d'amitié intergénérationnelle. Donc c'est pas mal. Voilà un peu au niveau du scénario. Je trouve ça pas mal. Et puis au niveau de l'histoire, voilà, on suit les moments de vie de chacun, de la vieille dame et de la jeune fille. Donc on peut voir dans leur environnement réciproque, que ce soit la jeune fille au collège ou la grand-mère... dans son quartier, on retrouve le Japon, voilà, c'est ça que je voulais dire, le Japon du quotidien, donc pour des personnes qui ont déjà voyagé au Japon, ou qui ont déjà vu des reportages, ça fait penser à ça, c'est bien je trouve, ça fait voyager justement un petit peu, parce que des fois dans certains mangas de science-fiction, voilà, on est projeté dans un environnement ou un univers complètement différent, que là c'est pas mal, enfin de mon point de vue. Après, donc, voilà, pour l'histoire, pour le dessin, donc c'est soigné, les dessins sont très très simples, l'ombrage aussi. Ça marche plutôt bien. On croirait presque que ce serait comme un storyboard, en fait, une première ébauche voilà, de manga, mais pas du tout. Bon, après, c'est peut-être parce que c'est le premier tome. Hein, ça finira peut-être par la suite, mais un manga fait avec soin, voilà. Comme si tout avait été fait à la main. Un beau petit manga. Hâte de voir la suite. Donc voilà, c'est la fin de ma chronique. En espérant que ça vous aura donné envie de le lire. Je vais laisser la suite à mes petits camarades et moi je vous dis à bientôt. Salut!
Et pour cette pause musicale, je vais vous parler de TK from Lintoste Sigore, un compositeur, arrangeur musical et parolier. Comme son nom l'indique, il s'agit du chanteur et guitariste du groupe Lintoste Sigore, formé en 2002. Ce chanteur à la voix puissante et peu commune nous emmène dans son univers à chaque nouvelle chanson. Il est à l'origine d'openings bien connus par la communauté des fans d'anime, puisque, outre les génériques de Psycho Pass, il est surtout le chanteur de l'opening de Tokyo Ghoul Unravel. Si récemment nous ne l'avions pas entendu sur la scène de l'Anisong, il revient cet hiver avec l'opening de Pet, un animé au style assez décalé de ce qu'on voit d'habitude, et voire même un peu dérangeant, traitant deux personnes pouvant entrer dans l'esprit des autres pour les manipuler via leur mémoire. L'opening colle parfaitement à l'ambiance de l'animé, et TK est même en charge de l'arrangement de l'ending proposé par Memai Sairen. On se perd dans les images et il est parfois difficile de saisir l'imaginaire du réel, mais c'est justement ce qui fait le charme de cet animé. On réfléchit, on se laisse porter et parfois on reste avec nos questions. Pour illustrer tout cela, écoutons donc l'opening de Pet par TK from Lintoshite Shigure, Chō no Tobu Suiso.
せないものがある世界が終わり消えたら二人きりだよ記憶で。
Merci beaucoup Victoria pour ta pause musicale. Et tout de suite, donc une émission un petit peu spécifique comme on l'avait dit en introduction, puisque du coup on a la chance d'accueillir Paul Gomer qui a pu travailler 10 ans au Japon et qui souhaite partager son expérience. Il va peut-être pouvoir nous donner quelques trucs et astuces pour partir là-bas ou travailler là-bas.
Pour tous les amoureux du Japon, au-delà de la consommation intramuros de sa culture et les voyages touristiques, il existe un rêve inaccessible, onirique, celui de partir là-bas, de travailler et de devenir un gaijin, mot japonais pour expatrié. L'entreprise est belle, fastidieuse, mais loin d'être impossible si on s'y prépare assez tôt et si on sait où chercher les informations pour obtenir le précieux sésame, celui du visa travail, adapté à notre projet. Aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir dans cette émission de Radio Nippon, Paul Gomer, qui revient vivre en France après 10 ans passés sur l'archipel Nippon, pour nous éclairer et nous donner ses lumières sur cette aventure.
Donc avant de commencer développer toute cette aventure, donc Paul, est-ce que tu veux nous faire une rapide présentation, un rapide CV de toutes tes expériences et de ce que tu as vécu au Japon et comment tu es arrivé ici?
Ouais, avec plaisir, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc je m'appelle Paul, j'ai 34 ans et je suis tout fraîchement arrivé sur Angers il y a 6 mois. Et donc avant ça, j'ai passé 10 ans au Japon, d'abord pour étudier et après pour y travailler. Je suis arrivé en tant qu'étudiant d'échange en 2010 à l'université Meiji à Tokyo. J'ai eu la chance de rapidement trouver du travail derrière, d'abord sous forme de stage pour mon stage de fin d'études et ensuite d'être embauché par la boîte qui m'avait accepté en stage. Donc j'ai eu comme ça la chance de travailler 2 ans dans le secteur du recrutement. Après, j'ai pu rejoindre une entreprise française qui s'appelle Babola, dans le secteur de l'équipement sportif, où on était une équipe de 2 à 3 personnes en charge du marché japonais, du développement du marché japonais là-bas. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au secteur web, au code, à l'innovation, aux startups. Et c'est comme ça que j'ai appris à coder et par la suite lancé en 2016 mon entreprise qui était une école de formation au développement informatique pour les grands débutants qui accueillait des personnes de nationalités différentes de tous horizons et qui avait pour but de les former pour devenir développeurs, pour changer de carrière ou alors pour lancer leur propre projet startup.
Juste une petite précision, parce que du coup tu nous parles régulièrement de code, mais on est bien d'accord que tu nous parles de code informatique, pas de code de la route.
Non, je parle de programmation informatique, ouais. Donc de langage informatique pour pouvoir créer des sites web, des services web. Et j'ai dû rentrer en 2019 pour raison familiale en France. Donc c'est comme ça que je me suis installé à Angers avec ma femme et mon fils. Et donc maintenant, mon activité depuis septembre 2019 est divisée en 2 grandes catégories. À peu près 50% de mon temps est passé à faire du développement de services web, donc du développement informatique en freelance. Et un autre 50% est dédié au développement de projets un peu plus personnels, dont un gros projet qui est d'aider justement les étrangers qui souhaitent venir s'installer au Japon, de leur fournir les clés et la stratégie pour y arriver, notamment sous forme de podcast. Et donc le podcast s'appelle Japan Life Stories. C'est en anglais, parce que la plupart des gens que j'interview sont anglophones, et je vous invite à visiter le site.
Du coup, en gros, si je reprends l'historique un tout petit peu au début, tu nous as dit que tu es parti en études, donc en gros, ce qui t'a fait pousser le pas, c'est le fait que tu avais un programme d'échange possible avec ton école à l'époque et une université japonaise.
C'est ça. Donc si on remonte le temps, ma formation de base, j'ai fait une licence LEA à Lyon, en anglais et en japonais. Et j'ai suivi, après cette licence, sur un master en école de commerce à Paris. Et c'est via la dernière année de ce master, mon M2, que j'ai eu l'opportunité de partir en échange à Tokyo avec l'université Meiji.
Donc pour revenir un petit peu plus sur un petit peu ton histoire, pour raconter aussi aux auditeurs comment ça s'est passé et peut-être pour les aider à se projeter sur un futur projet. Initialement, donc, ton stage a duré 6 mois, 1 an ?
Mon stage a duré 6 mois.
D'accord. En fait, quand tu étais là-bas, tu étais vraiment dans le milieu du travail, fraîchement arrivé. Ça a été compliqué pour l'adaptation, pour la langue, pour les codes, pour... là, je parle pas de code informatique, mais ouais. De code, on va dire...
Sociétal,
parce que comment est-ce que tu t'es adapté à ce milieu-là? Est-ce que tu avais des préjugés qui se sont révélés être vrais ou faux d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Je pense que le gros avantage de partir au Japon d'abord en tant qu'étudiant d'échange, c'est qu'on est très encadré On a une structure, on a des gens qui sont là pour nous aider dans les démarches, que ce soit ouvrir un compte en banque, que ce soit trouver un logement, que ce soit toutes ces démarches-là. Et donc, ça fait qu'on arrive déjà plus ou moins bien préparé. Après, c'est vrai que trouver du travail derrière, c'est pas toujours évident, d'autant plus chercher un stage, parce qu'à l'époque, la notion de stage n'existait pas quasiment au Japon. Et en même temps, à l'époque, c'était en 2011, il y a eu le tremblement de terre de Fukushima et toutes les catastrophes nucléaires qui s'en sont ensuite, qui ont compliqué un peu la situation. Mais j'ai quand même réussi à trouver, donc dans un cabinet de recrutement qui était une boîte américaine. Et un des avantages, c'est que la majorité des employés dans l'entreprise étaient des anglophones qui venaient d'un peu partout dans le monde. Ce qui fait que j'ai pas été confronté directement, en tout cas dès mon premier job, à l'entreprise japonaise telle qu'on, qu'on se l'imagine.
Un peu comme dans Super et Tremblement, quoi.
Exactement, ça c'était ma deuxième entreprise.
Ouais. Ouais. Donc ouais, t'as eu un moment en fait un petit peu où il y a eu un petit charnière en fait qui a fait que t'as pu intégrer tout ça progressivement.
C'est ça, ouais. Ma première expérience professionnelle était très très internationale, mes collègues étaient quasiment tous étrangers et les collègues japonais parlaient très bien anglais et les profils...
Ah, ça, c'est en plus.
Les profils que je chassais en tant que recruteur étaient anglophones pour la plupart. Okay. Donc ça a été une transition assez douce.
Et en fait, quand tu étais donc en stage et que tu as dû trouver un emploi, comment est-ce que tu as fait ?
Ça n'a pas posé de problème en termes administratifs, parce que si je me souviens bien sur les visas, alors déjà partir au Japon avec un visa étudiant, tu as dû avoir l'université, comme tu l'as dit, qui a un cadre, tout ça, donc qui a dû pas mal aider à avoir ton visa. Mais quand tu as dû passer d'étudiant à travailleur, il n'y a pas eu une petite problématique outre-administrative, diverses problématiques liées à ça, du passage de l'étudiant à travail ?
Non, il n'y a pas eu vraiment de problème, parce que le process est assez simple au final, comme beaucoup de processus administratifs au Japon, à partir du moment où on a les bons documents et on rentre dans les cases. Moi, j'avais la chance de rentrer dans les cases, ce qui fait que je suis passé d'un visa étudiant, donc qui était sponsorisé par l'université d'échange, avec Meiji, une fois que j'étais embauché, un visa de travail sponsorisé par la boîte qui m'a embauché.
D'accord.
Et donc tout ce travail de sponsoring, on parlait tout à l'heure de COE, Certificate of Eligibility, en fait c'est pas vraiment moi qui le gère en tant que travailleur, c'est l'entreprise
qui
le fait.
Tout géré.
Donc d'où l'avantage de trouver une entreprise qui va vous sponsoriser. Donc pour revenir sur ta question, non, pour moi c'était pas très compliqué, sachant que la loi a changé très récemment au niveau de la transition des visas de visa d'étudiant à visa de travail, et de mémoire, il me semble que c'est plus possible de le faire directement comme moi je l'ai fait sans quitter le pays.
D'accord.
Donc ça, c'est que de passer d'un visa de touriste, d'étudiant ou de working holiday, maintenant on est obligé de retourner dans son pays d'origine, faire les démarches auprès du consulat pour repartir,
d'accord,
même si on a déjà trouvé une entreprise.
Oui, parce que du coup, j'ai eu le temps de faire quelques recherches justement sur les visas et j'ai vu que les visas travail, la plus grosse difficulté, c'est d'avoir ce fameux COE, qui est le Certificate of Eligibility. Donc il faut réussir à trouver un sponsor qui veut bien le faire. Ça, c'est vraiment pas simple. Du moins, de ce que j'en regarde comme ça, j'ai vraiment l'impression que c'est la chose la plus dure. Ce qu'il faut réussir à demander, est-ce que quelqu'un demande un COE pour nous, pour l'envoyer en France et ensuite qu'on l'amène l'original à l'ambassade de France.
C'est la chose la plus dure en termes de démarche et d'effort surtout, parce que administrativement c'est pas très compliqué, c'est juste des papiers à remplir, mais ça demande un effort supplémentaire et ça, pas toutes les entreprises sont disposées à le faire. Donc ça, la difficulté revient à trouver une entreprise qui ait un besoin, qui soit prête à nous embaucher et à faire l'effort supplémentaire de fournir ce COE. Donc l'effort en tant que du côté du chercheur d'emploi au Japon, c'est vraiment trouver la bonne entreprise qui correspond à ces critères.
Pour faire une petite aparté tout de même sur les visas, parce que c'est vrai qu'on parle des visas, mais on n'a pas eu le temps de faire de petite aparté sur les visas. Faut savoir qu'il y a à peu près, pour partir au Japon en tant que français, il y a à peu près trois grandes catégories. Va y avoir la première catégorie qui est justement avoir le visa travail ou le visa long séjour, et donc il faut réussir à avoir une personne, un sponsor, une personne qui accepte d'aller voir, dans sa région du Japon, d'aller voir l'ambassade ou le service de l'immigration du Japon, pardon, qui du coup fait les démarches de faire un COE pour justement demander un certificat of eligibility pour une personne, puis ensuite qu'il l'envoie à la personne française. Personne française qui derrière, grâce à celle-là, va pouvoir aller à l'ambassade. Alors pour nous, Angevin, c'est l'ambassade du Japon en France, donc qui se trouve à Paris. Après, il y a quatre régions de France et donc il y a trois autres consulats. Si jamais vous faites partie des autres régions, renseignez-vous bien à savoir lequel vous alliez. Après, Fanny, tu veux peut-être nous parler justement de la possibilité qu'ont les Français de faire le voyage sans visa ?
oui, donc je pense que tout le monde est à peu près au courant que cette possibilité existe. C'est ce que font la plupart des touristes, hein, puisque étant français, nous avons la chance de pouvoir voyager au Japon sans visa pendant 90 jours pour donc tout ce qui est voyage touristique ou visite aux familles, mais aussi les voyages d'affaires, les stages non rémunérés, ainsi que toutes autres occasions comme des concours amateurs par exemple. Pour ce type de voyage, il vous faudra par contre impérativement avoir un passeport valide, avoir votre billet retour pour la France et puis également vous devrez avant l'atterrissage noter sur une fiche de renseignement l'adresse où vous allez résider pendant votre séjour.
Et du coup, le dernier visa qu'il est possible d'obtenir, donc après, c'est ce qu'on appelle, enfin, toi, tu l'as dit en anglais, c'est le working...
Working holiday visa, c'est le visa vacances-travail.
Exact, c'est le visa vacances-travail, donc que l'on peut faire depuis donc janvier 99, puisqu'il y a eu un accord bilatéral entre le Japon et la France. Le visa vacances-travail peut être demandé jusqu'à un an avant l'arrivée, et pour une durée entre 6 mois et 1 an. Le but du vacances-travail, en fait, c'est vraiment d'avoir un voyage touristique et de prévoir donc un voyage touristique, sachant que du coup, on a la possibilité dans ce voyage touristique de faire travailler un petit peu, mais si c'est du travail, c'est uniquement pour arrondir ses fins de mois et avoir un petit peu d'argent. Il faut pas que ça représente plus de 50% du temps de vie au Japon.
Et donc du coup, Paul, en termes de visa, tu t'es débrouillé comment ?
En visa, j'en ai collectionné quelques-uns. Je suis passé par différents statuts en fonction aussi de ma situation professionnelle à ce moment-là. Donc j'ai commencé bien sûr avec un visa étudiant qui était sponsorisé par mon université. Je l'ai gardé quand j'ai fait mon stage. Et une fois que j'étais embauché, j'ai commencé avec un visa de travail qui était d'un an, si je me souviens bien, parce que l'immigration fournit des durées limitées et variables en fonction de la situation professionnelle. Donc généralement, quand on démarre dans un nouveau poste, une nouvelle entreprise, on commence par un an, après c'est 3 ans, après c'est 5 ans, et je crois que c'est le maximum. Donc j'ai eu d'abord un an, après j'ai eu un autre visa de travail de 3 ans, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me marie avec une japonaise, et c'est là où j'ai eu besoin de demander le visa d'époux, qui est un autre type de visa, qu'on peut obtenir à partir du moment où on est marié avec un citoyen japonais. Et donc c'est sur ce visa d'époux que j'ai continué jusqu'en 2019, et c'est ce visa d'époux qui m'a aussi permis de créer ma société là-bas, chose qui n'est pas possible sur un visa de travail.
Ouais, d'accord.
Ça, c'est un des petits trous noirs de l'administration japonaise, parce que c'est assez compliqué. Après, ils commencent enfin à mettre en place des aides à ce niveau-là, avec notamment des visas dont on n'a pas parlé, mais il y a un visa start-up. Quand on a une idée de start-up et qu'on veut monter sa structure, on n'a pas encore de marché, mais on veut la tester sur place. Il y a Fukuoka d'abord, et après il y a d'autres villes au Japon, dont Tokyo, qui a adopté ça, qui ont mis en place un visa de 6 mois pour pouvoir tester son business sur place et le transformer derrière sur un business manager visa qui permet de monter sa boîte quand on n'est pas époux.
D'accord. Enfin, monter sa boîte et réussir à espérer que le marché fonctionne en 6 mois, c'est pas un peu court ?
C'est très très court. C'était une des principales critiques qui a été remontée. Ils l'ont étendu à un an, là, récemment.
D'accord, ok. Du coup, en tout cas, je te remercie pour tous ces retours. Puis, pour continuer et terminer un petit peu, je sais que tu as parlé du fait que tu avais monté ta propre web radio, dont j'ai perdu le lien, mais qu'on va assez rapidement retrouver. Mais du coup, tu veux nous parler un petit peu de ta web radio, le but de la web radio, qu'est-ce que tu veux faire avec la web radio et comment tu avances là-dessus ?
Oui, donc j'ai lancé ce projet qui s'appelle japanlifestories.com récemment, en décembre, et c'est parti d'un constat assez simple. Au cours de ces 10 ans au Japon, j'ai eu la chance de me créer un réseau quand même assez étendu d'étrangers qui ont fait différentes choses au Japon. Pour beaucoup avec un certain succès aussi dans leur secteur. Et je me suis un peu posé la question en faisant le chemin inverse du Japon vers la France sur comment ces gens-là avaient réussi. Parce que c'était l'heure de faire un bilan aussi pour moi de mon côté et revenir un petit peu sur mon expérience. Je me suis dit que souvent, on voit la réussite de quelqu'un à un instant T, mais on ne voit pas tout le chemin qui a été nécessaire pour y parvenir. Et quand on veut partir au Japon, je me suis remis dans ma situation 10 ans auparavant, où j'étais jamais parti dans le pays, où je rêvais devant les carrières de certains expatriés qu'on voyait sur des blogs à l'époque. Et en fait, il a fallu du travail, il a fallu des opportunités, il a fallu différentes choses pour y arriver. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de partager tout ça. Et c'est comme ça que j'ai lancé ce projet, en n'y connaissant pas grand-chose en podcast, où j'ai eu l'idée d'interviewer mes contacts dans un premier temps, et puis après d'autres étrangers qui font différentes choses au Japon, pour discuter de leur parcours, de premièrement pourquoi ils sont venus dans le pays, qu'est-ce qui les intéressait, et les différents chemins, les différentes tactiques et opportunités qui les ont conduits à là où ils sont maintenant, dans un but d'inspirer et de procurer des pistes et des clés pour ceux qui voudraient faire le même chemin. Donc là, le podcast se fait en anglais, parce que la majorité de la communauté étrangère au Japon est anglophone. Mais je pense que c'est assez accessible pour quelqu'un qui comprend un petit peu l'anglais. L'idée, c'est vraiment de donner une expérience très large.
D'accord.
Et la deuxième partie de ce projet aussi, que je suis en train de développer, donc là, c'est encore en phase de rodage, c'est la création d'un parcours un peu personnalisé, d'accompagnement.
Pour un peu de coaching pour partir au Japon, quoi.
Pour les étrangers qui souhaitent partir au Japon. Donc là, c'est pas vraiment de l'accompagnement administratif en termes de visa, en termes de tout ça, mais c'est plus de l'accompagnement stratégique sur comment organiser ses démarches, comment organiser sa vision pour mettre toutes les chances de son côté de réussir.
Puis aussi, c'est de rendre les projets un petit peu plus réalistes.
C'est ça, et surtout prendre en compte les forces et les faiblesses de chacun. Et c'est aussi pour ça que je voulais créer ce podcast, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de parcours linéaire. Ça existe, mais c'est très rare. Moi, j'ai clairement pas un parcours linéaire parce que je suis passé par plein d'activités différentes. Et la majorité de mes amis, mes contacts au Japon sont exactement dans la même situation. Et c'est quelque chose qu'on pousse pas assez, je pense, en France, qui est un peu plus présent dans les pays anglo-saxons. C'est cette culture de l'opportunité et de savoir identifier des opportunités et surtout de les cultiver via la création d'un réseau, via l'entretien de contacts et via cette recherche un peu active qui va permettre à certaines opportunités de se présenter et de s'orienter comme ça.
Ouais, en quelque sorte, il faut provoquer sa chance.
Exactement, il faut être actif là-dedans. Et ça s'apprend.
Je voulais faire profiter un petit peu tous nos auditeurs d'une interview que tu as faite, histoire de voir un petit peu et de constater par eux-mêmes qu'est-ce qu'il y a sur Japan Life Stories.
This week, I discussed with Alessandro Bellegarde. Alessandro is an American videographer living in beautiful Kyoto. After a first career as a chef and directing his first movie, he created his own production company with a key mission: to archive Kyoto's cultural landmarks through virtual reality and high-definition 3D videos. He has since been able to cover events such as the Gion Matsuri, and be an ambassador for Kyoto at the famous Grammy Awards ceremony. In this interview, Alessandro...
Voilà, donc un petit peu, c'est ce qu'on peut avoir comme émission sur Japan Life Stories.
C'est ça, c'est des échanges souvent de 40-45 minutes sur ces astuces et sur ces bons plans pour réussir.
Et donc vous pourrez retrouver tous ces podcasts sur japanlifestories.com.
Radio G, 101.5 FM.